Platon, La République, livre 9e. Il nous reste à examiner le caractère du tyran dans l'individu. Comment l'homme tyrannique naît de l'homme démocratique? Quelles sont alors ses mœurs? Et si son sort est heureux ou malheureux? Oui, c'est l'homme tyrannique qu'il nous reste à examiner. Sais-tu ce qui me manque encore? Quoi? Nous n'avons pas, ce me semble, assez nettement exposé la nature et les diverses espèces de désirs. Tant que ce point sera défectueux, nous n'arriverons à rien de clair. Mais nous sommes à temps d'y revenir? Sans doute. Voici ce que je suis bien aise de remarquer dans les désirs. Parmi les désirs et les plaisirs non nécessaires, j'en aperçois d'illégitimes qui naissent probablement dans l'âme de tous les hommes, mais qui, chez quelques-uns, réprimés par les lois et par d'autres désirs meilleurs, s'en vont tout à fait grâce à la raison, ou demeurent faibles et en petit nombre, tandis que chez d'autres, ils subsistent en plus grand nombre et plus fort. De quel désir parles-tu, Socrate? Je parle de ceux qui se réveillent durant le sommeil, lorsque la partie de l'âme qui est raisonnable, pacifique et faite pour commander, est comme endormie, et que la partie animale et féroce, excitée par le vin et la bonne chair, se soulève et, repoussant le sommeil, cherche à s'échapper et à satisfaire ses propres penchants. Elle ose tout alors, comme si elle avait secoué et rejeté toute honte et toute retenue. L'inceste avec une mère ne l'arrête pas. Elle ne distingue ni Dieu, ni homme, ni bête. Aucun meurtre, aucun affreux aliment ne lui fait horreur. En un mot, il n'est point d'infamie, point d'extravagance, dont elle ne soit capable. Tu dis très vrai. Mais lorsqu'un homme mène une vie sobre et réglée, lorsqu'il se livre au sommeil, après avoir éveillé en lui la raison, l'avoir nourri de nobles pensées, de spéculations élevées, et s'être entretenu avec lui-même, lorsqu'il a évité d'affamer aussi bien que de rassasier le désir, afin que celui-ci se repose et ne vienne point troubler de ses joies ou ses tristesses le principe meilleur, mais qu'il le laisse, seul et dégagé, examiner et poursuivre d'une ardeur curieuse ce qu'il voudrait savoir du passé, du présent et même de l'avenir, lorsque cet homme a eu soin aussi de maintenir en repos la colère, et qu'il se couche, le cœur tranquille et exempt de ressentiment contre qui que ce soit, enfin, lorsque ses yeux se ferment, le principe de la sagesse seul, en mouvement dans le silence des deux autres, en cet état, tu le sais, l'âme entre dans un rapport plus intime avec la vérité, et les visions des songes n'ont rien de criminel.
J'admets tout cela parfaitement.
Je me suis trop étendu, peut-être. Ce que nous voulons constater, c'est qu'il y a, en chacun de nous, même dans ceux qui paraissent les plus modérés, une espèce de désir cruel, intraitable, sans loi. Et c'est ce que les songes attestent. Vois si ce que je dis est vrai, et si tu en tombes d'accord.
J'en tombe d'accord.
Rappelle-toi maintenant le portrait que nous avons fait de l'homme démocratique. Nous disions que, dans sa jeunesse, il avait été élevé par un père parcimonieux, n'estimant que les désirs qui ont le gain pour objet, et se mettant peu en peine des désirs superflus qui se rapportent au luxe et au plaisir. N'est-ce pas?
Oui.
Que, jeté dans la compagnie de gens frivoles et livré à ces désirs superflus dont je viens de parler, entraîné dans toute leur folie et adoptant leur manière d'être par aversion pour l'économie étroite de son père, doué pourtant d'un meilleur naturel que ses corrupteurs, ce jeune homme, tiraillé de deux côtés opposés, avait pris un milieu et s'était décidé à user de l'un et de l'autre système avec modération, selon lui, et à mener une vie également éloignée de la contrainte servile et du désordre qui ne connaît point de loi. Qu'ainsi, d'oligarchique, il était devenu démocratique. Oui, cela est vrai. Telle est bien l'idée que nous nous en sommes faites. Donne à présent à cet homme devenu vieux un fils élevé dans des habitudes semblables. Fort bien. Imagine ensuite qu'il lui arrive la même chose qu'à son père. Je veux dire qu'il se trouve entraîné à une vie licencieuse, vie de liberté par excellence, au dire de ses guides. Que son père et ses proches prêtent main forte au désir modéré, tandis que les autres secondent de tout leur pouvoir la faction contraire. Quand ces enchanteurs habiles, qui possèdent le secret de faire des tyrans, désespéreront de tout autre moyen de retenir ce jeune homme, ils feront naître en son cœur, par leurs artifices, l'amour de se mettre à la tête des désirs oisifs et prodigues. Amour qui est une sorte de grand frelon ailé. Car, crois-tu qu'un pareil amour soit autre chose ? Non, rien d'autre chose. Bientôt, les autres désirs, ceux d'un caractère ardent, avec les parfums, les onguents recherchés, le vin, les fleurs, ainsi que les plaisirs sans frein qui sont toujours de la partie, viennent bourdonner autour de l'amour, le nourrissent, l'élèvent, et arment enfin le frelon de l'aiguillon de l'ambition. Alors, escorté de la folie, et comme un forcené, ce tyran de l'âme immole tous les sentiments et les désirs honnêtes et pudiques qu'il peut trouver en lui-même, et s'applique à les en bannir, jusqu'à ce que toute sagesse ait fait place à une fureur inconnue. Voilà bien comment se forme l'homme tyrannique. N'est-ce pas pour cette raison que, dès longtemps, l'amour a été appelé tyran ? Il y a toute apparence. N'est-il pas vrai aussi que tout homme tombé dans l'ivresse a une disposition à la tyrannie ? Oui, Socrate. De même, encore, un esprit dérangé et tombé en démence veut commander aux hommes et même aux dieux, et espère en être capable. Assurément. Ainsi, mon cher, rien ne manque à un homme pour être tyrannique, quand la nature ou l'éducation, ou l'une et l'autre ensemble, l'ont fait amoureux, ivrogne et fou. Non, rien vraiment. Nous venons de voir, donc, comment se forme, selon toute vraisemblance, l'homme tyrannique. Mais comment vit-il ? Je te répondrai comme on fait en plaisantant. C'est toi qui me le diras. C'est toi qui me le diras.